La revue de presse, donc vous avez épluché ce matin les journaux qui nous parlent d'un monde de la culture dans tous ses états.
Toutes les plantes ne veulent pas la même culture, écrivait Gustave Flaubert. On peut dire que la France est une friche, un jardin en pleine évolution. Des plantes meurent, d'autres sont en pleine croissance. Mais elle est surtout divisée en deux parcelles. Cette étude marque une date, une rupture, écrit Le Monde, qui décortique l'étude du ministère de la Culture. Tous les 10 ans, des sociologues sondent les Français sur leurs habitudes et regardent les changements. Et ces 10 dernières années, une fracture s'est formée béante entre culture patrimoniale vieillissante et culture numérique plébiscitée par les jeunes.
Mais en quoi est-ce nouveau, Théo? C'est une évolution qui a commencé il y a longtemps, non?
Oui, et justement, elle est arrivée aujourd'hui à une telle ampleur que cela inquiète désormais sur la survie même de certaines pratiques culturelles. Une fracture générationnelle, mais aussi économique et sociale. Deux exemples, le théâtre, dans les années 70, les 15-24 ans étaient 3 fois plus nombreux que les plus de 60 ans dans les salles de théâtre. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Pareil pour la lecture des livres. Or, si on ne lit pas un livre à 15 ou 20 ans, peu de chance qu'on commence à 40 ans ou plus, écrit Le Monde. Pour le théâtre ou les musées, je ne vous fais pas de dessin, c'est la même chose. Ce qui pose désormais carrément donc la question de la survie de cette culture classique, de plus en plus vieillissante, de plus en plus élitiste. Aussi, 80% des cadres ont visité un site patrimonial en 2018, contre 32% des ouvriers. Le rapport était de 70-45 dans les années 70. Puis cela pose aussi la question de la démocratisation culturelle. Elle ne marche pas comme elle est menée aujourd'hui. Et l'État peut-il continuer à soutenir à bout de bras une culture patrimoniale élitiste au détriment du reste?
Une culture qui se meurt, on en a un exemple dans le magazine Society.
Qui s'est rendu à Carhaix, voire une Bretagne en convalescence. Les vieilles charrues ont été crucifiées par les mesures de distanciation sociale. Et c'est tout un territoire en gueule de bois. Entre nouveaux westerns et films de Ken Loach, écrit le magazine, c'est vous dire. 2020, elle est fadasse, lance Linda, une bénévole historique, au témoignage émouvant. On va vivre une année sans adrénaline, sans parenthèse. La perspective des vieilles charrues, ça vous fait relativiser la pluie, le froid, le travail, les soucis. Pendant une semaine, tu fais partie d'un truc plus grand, plus collectif, dit Linda. Les vieilles charrues, ce sont 700 emplois saisonniers, 15 000 postes indirects, 7 000 bénévoles. Alors cette année, c'est un vide. Mais c'est aussi l'occasion de se renouveler, écrit Society. La brasserie Coref, qui fournit d'ordinaire le festival, a par exemple reconverti ses salariés. Ceux qui sillonnaient les routes des festivals pour livrer les bières ont appris à faire des bouteilles. Un reportage émouvant, drôle, dans tous les coins de Carhaix, et surtout pas déprimant, car heureusement c'est une pause due au Covid et pas une mort.
La presse quotidienne régionale nous donne aussi des notes d'espoir en la matière. Les pratiques culturelles ont déjà commencé à se réinventer pour survivre.
Oui, le Berry républicain met la culture en une avec le titre « L'art déploie ses ailes », sous-entendu hors des musées et des sentiers habituels. Le Festival d'art contemporain de Bourges est annulé. Eh bien, l'école des beaux-arts de la ville a dessiné un parcours en ville et une 60aine d'artistes ont imaginé un parcours d'art contemporain autour de Rodin dans 5 lieux de la région Centre-Val-de-Loire. Autre exemple locaux également dans La Croix qui raconte comment, à Annecy, Cergy-Pontoise ou Bussan, des festivals de spectacles vivants se sont réinventés pour survivre à l'été. Le directeur du Théâtre du Peuple à Bussan raconte ainsi, nous ouvrirons les portes à l'arrière du théâtre, le public sera assis dans la forêt et la salle vide deviendra ainsi le décor du théâtre.
Autre réinvention, Théo, qu'on connaît bien ici à Radio France, les podcasts. La radio, elle aussi, diminue beaucoup chez les jeunes qui l'écoutent sur le numérique à la demande.
Oui, le Figaro raconte ainsi comment le géant des podcasts Spotify adapte désormais ses podcasts américains à succès en plusieurs langues et en français notamment. Ainsi, la fiction audio Sandra, qui se passait originellement en Oklahoma, a été réécrite pour le marché français pour se dérouler à Ruffec, en Charente, avec des voix françaises, notamment Virginie Efira et Stéphane de Grotte. Mais pour cette réinvention, cette révolution en matière de culture, le choix de Roselyne Bachelot comme ministre est-il véritablement le bon? C'est la question que l'on se pose en lisant le portrait que lui consacre le Figaro, qui raconte une ministre tenante de la ligne très classique en matière de culture, amatrice de musique classique et de théâtre. Elle fréquente l'Opéra de Paris, l'Opéra Comique, les festivals d'Aix, de Salzbourg et les corégies d'Orange, raconte le quotidien. Ses passions se nomment Verdi ou Wagner. Son ancien chef de cabinet raconte par exemple avoir entendu chevaucher les Valkyries dans les couloirs du ministère de la Santé. Roselyne Bachelot a montré aux grosses têtes notamment qu'elle savait parler à tout le monde. « Je garderai ce côté rabelaisien », assure-t-elle. En matière de langage, certes, elle l'a fait aux grosses têtes, mais en matière de pratique culturelle, cela reste à voir. La culture n'est pas que belle, lorsqu'elle est lisse et propre. C'est Libération qui le rappelle et qui réhabilite les fausses notes comme partie intégrante de la musique. L'oreille occidentale entend du faux, là où un Africain ou un Tibétain entend une note juste, rappelle Libération. Le quotidien raconte comment nos oreilles occidentales ont été dressées à certaines mélodies, à des octaves données, et raconte notamment la visite d'un dignitaire tibétain en visite en France. Questionné sur le concert de musique classique auquel il vient d'assister, il répond que son passage préféré était celui où les instruments s'accordaient. Dernier exemple, plus disruptif, on va dire, sur la survie des monuments culturels classiques. Le journal L'Équipe raconte comment les organisateurs du Tour de France tentent de gravir à nouveau un monument du cyclisme français, le Puy de Dôme. La route qui y monte est impraticable, même en vélo. Un arrêté municipal y interdit l'accès depuis 2012. C'était pourtant le lieu d'une bataille mémorable il y a 56 ans, presque jour pour jour, entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, épaule contre épaule dans la montée. Eh bien, la dernière ascension du Puy de Dôme sur le Tour, c'était en 1988. Un monument qui se meurt et que L'Équipe appelle à réinventer.
C'était la revue de presse de Théo Hetsch. Merci.